à voix nue. Cette semaine, Joël Gaillot rencontre André Dussolier. Ce soir, à l'origine était la Haute-Savoie.
D'abord, il y a le sourire d'André Dussolier. C'est important, un sourire, et ce sourire est irrésistible. Ensuite, il y a la voix de l'acteur, et elle est magnétique. Sa silhouette, elle, est celle d'un jeune sexagénaire sur qui le temps n'a pas de prise. On le regarde, il nous fait face dans son bureau parisien, pas très loin du jardin du Luxembourg. On le regarde et les images affluent. Il joue sur les scènes des théâtres, il vogue dans des flots d'écriture, Molière, Tchekhov, Harold Pinter, Roland Dubillard, Sacha Guitry, Ingmar Bergman, Arthur Schnitzler ou l'italien Alessandro Baricco, je ne les cite pas tous. Et il habite aussi ô combien les écrans de cinéma. Le voici en 1983 qui pouponne dans Trois hommes et un couffin. En 2001, il opère en blouse blanche dans La chambre des officiers et narre en voix off Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il sauve Paris du chaos dans Diplomatie, se stalinise dans Une exécution ordinaire, se politise méchamment dans Chez nous. 18 ans après Tanguy, il ronge de nouveau ses nerfs dans Le retour de Tanguy, film d'Étienne Chatillez. Lui qui aura été avec Sabine Azéma, l'un des Tanguy préférés du cinéaste Alain René, avec qui il a tourné non pas un, non pas deux, non pas trois, mais sept films. Bonjour André Dussolier.
Bonjour.
Et merci de nous recevoir dans votre bureau parisien. Dans toute exploration d'une vie, d'une trajectoire, il y a forcément un début, une origine, une matrice. Cette matrice, pour vous, c'est la Haute-Savoie, où vous êtes né, où vous avez grandi. Qu'est-ce que la Haute-Savoie convoque immédiatement lorsque je vous en parle, chez vous, comme odeur, comme couleur, comme souvenir, comme son ou comme paysage ?
Des images magnifiques que j'ai vraiment toujours envie de retrouver, où j'ai l'impression de me retrouver d'ailleurs quand j'y retourne. Le lac, les montagnes, Annecy, la capitale de la Haute-Savoie, et puis le petit village où j'ai habité aussi pendant pas mal d'années, 12 ans, à Cruzeil, qui était un village de 1000 habitants à l'époque, et où il y avait là aussi une nature abondante, la montagne, la beauté, le ciel, de quoi rêver, et de quoi aussi faire pas mal de sport, parce que ça c'était aussi une autre passion. Dans la Haute-Savoie et cet endroit où je suis né, j'éprouve le besoin à chaque fois d'y retourner pour retrouver l'air de mon enfance, y respirer et puis voir ces spectacles. J'ai toujours pour habitude d'aller à Annecy. La première fois que j'y mets les pieds, je vais toujours au bord du lac sur un banc qui est toujours le même et qui est face au lac et où il y a à peu près, je sais pas, 14 plans de montagne comme ça qui entourent le lac et qui à chaque saison sont un peu, je sais pas, ont des couleurs différentes. Et on les voit pas forcément tous, on les devine. Et puis c'est vraiment le plus beau des écrans de cinéma que d'être là sur ce banc.
Quelle est la part de vérité ? Quel est le pan de votre identité ou de votre personnalité qui nous échapperait complètement si on ne parlait pas d'emblée dans cette première émission, André Dussolier, de votre enfance ? À côté de quoi est-ce qu'on passerait ?
De l'essentiel, je pense de l'essentiel, parce que tout est parti de là, évidemment, comme chez chaque être, individu, mais là, c'était vraiment fondamental pour la suite de ma vie. L'enfance, c'est fils unique, c'est des parents fonctionnaires, c'est dans un petit village, pas beaucoup de relations avec les autres, on était chacun dans son coin, j'ai envie de dire. Ça correspondait au milieu social auquel on appartenait. Le fils de l'épicier, mon copain, était lui souvent en dehors chez lui, je l'enviais. Et moi, je faisais le trajet de l'école jusqu'à chez moi et je travaillais et puis je retournais à l'école et voilà. Et jusqu'au jour où je suis passé dans une ville un petit peu plus grande, Saint-Julien-en-Genevois, où là, tout d'un coup, je rencontre un professeur qui me fait découvrir le théâtre, qui au lieu de nous apprendre les textes ou de nous les faire découvrir en classe, nous emmène au théâtre et nous fait découvrir le théâtre. C'est un monde que j'ignorais totalement. Je savais même pas que ça existait, le théâtre. Je suis allé aussi voir des films, enfin, à partir de là, enfin, ouais, c'est une ouverture qui commence à 11 ans et où tout d'un coup, je m'épanouis dans un monde virtuel qui est beaucoup plus riche que le monde dans lequel je vivais, dans la réalité que je connaissais, qui était plutôt une réalité studieuse, obéissante, à la voie toute tracée par les adultes.
Je pensais, André Dussolier, en vous écoutant dans une fiction que vous avez enregistrée pour France Culture, c'était La Lettre au Père de Kafka, à ce que vos petits camarades de classe disaient de votre père. père, il le surnommait le persécuteur, parce que votre père était percepteur. Ouais. Et je me demandais s'il y avait eu chez vous une forme de révolte à opérer contre la figure paternelle, qui était, oui, je crois, plutôt réservée,
oui,
alors que votre mère d'origine italienne était plus extravertie.
Exactement. Mon père, il était descendu de sa montagne, lui, il avait été en ville, dans la fonction publique tout de suite, et il avait gravi les échelons de façon progressive, comme ça, en passant des examens internes. Et puis, il a rencontré ma mère, qui était d'une famille italienne, issue d'un Italien qui avait suivi Napoléon, et qui s'était arrêté à Annecy. Donc, c'est vraiment l'assemblage des deux familles, l'une citadine italienne très fantaisiste, avec beaucoup d'oncles, et puis mon père, avec aussi des oncles de ce côté-là, mais qui sont dans la moyenne montagne, plus paysans, plus réservés, plus obéissants à la nature, aux lois de la nature, et plus dans le devoir, quoi, je dirais. Bon, et là, une carrière à laquelle j'avais envie de désobéir, quoi, qui était une voie qui m'entraînait vers les études, vers le travail, vers la fonction publique, encore une fois, là où peut-être où il n'était pas allé, où il aurait eu envie d'aller. Bon, bref, j'étais plus attiré par la fantaisie, la famille italienne, que par l'austérité de la famille de mon père, mais chez qui j'ai puisé beaucoup de sérieux, de travail, de rigueur, qui correspondait à ce que vivent les paysans quand ils sont soumis aux lois de la nature.
Mais justement, ce monde paysan, l'observation du monde paysan à laquelle vous avez été confronté, est-ce qu'elle vous a entraîné à avoir une certaine représentation du monde, de la société, du comportement humain, de la relation à l'autre, parce qu'une nature dans laquelle on vit, vous parliez tout à l'heure du lac d'Annecy que vous aimez aller contempler, la nature, elle a un cycle immuable, elle a des règles, elle a des lois. On peut la tordre, on peut un petit peu lui imposer sa propre loi, mais malgré tout, c'est elle qui domine. Est-ce que ça forge un tempérament, André Dussolier ?
Oui, parce qu'il faut, d'une part, ça crée une sorte d'humilité, quoi, chez, oui, chez ceux qui vivent là, comme ça, soumis aux lois de la nature. J'ai connu vraiment beaucoup, les frères de mon père étaient tous paysans, et donc ils étaient vraiment, ils n'avaient pas de vacances, Et je passais mes dimanches souvent là-bas à la ferme familiale, où tout le monde se réunissait, où les repas commençaient à 13h et finissaient à 17h, ce qui était très ennuyeux pour un enfant. Et donc on restait attablés et tout le monde parlait de ses souvenirs ou de la vie, des activités de chacun. Il ne faut pas oublier aussi alors quelque chose dans cette famille-là qui est le non-dit, c'est-à-dire qu'on ne On parlait, certes, mais je ne me souviens même pas de choses vraiment qui auraient pu m'intéresser, me captiver, parce que on était juste après la guerre et il y avait eu des drames dans cette région, qui est une région de foyer de résistance assez important, et où mon grand-père a été tué à l'issue de la libération. Il y avait un couvercle là-dessus que j'ai appris à soulever un peu au fur et à mesure en parlant avec mon père, mais ça s'est fait petit à petit, quoi, vraiment. Donc il y avait ce monde paysan, c'était vraiment à la fois de l'humilité, mais c'était aussi une relation entre les gens qui n'était pas aussi ouverte que je l'aurais souhaité. Et puis même la nature qui était avec laquelle ils étaient en rapport tous les jours, j'avais pas l'impression d'y accéder comme on peut faire l'école buissonnière et aller voir un peu tout ce qui s'y trouve, quoi, les plantes, les animaux, tout ça. J'ai l'impression que ça faisait partie aussi d'une voie toute tracée, d'un devoir, d'un travail. Mais c'était pas une découverte du monde comme un enfant peut souhaiter la faire quand on est jeune.
Vous n'aviez pas donc cette possibilité d'aller explorer, d'aller faire justement mener des aventures buissonnières. En fait, pour vous, la libération, elle passait par quoi? La libération dans la camaraderie, elle passait par le foot, notamment.
Par le foot,
parce que vous étiez très footeux, hein, vous aimiez beaucoup
footeux.
Ça.
Ben oui, parce que j'étais dans un petit village et c'était socialement la possibilité enfin de réunir tous les corps de sociaux qu'il y avait. Moi, le fils de fonctionnaire. Il y avait des fils de paysans, il y avait des fils de commerçants, il y avait il y avait vraiment toutes les couches de la société et le foot vraiment nous permettait de nous unir, de nous réunir. Et vraiment, alors le dimanche pour le coup, parce que il y avait toujours une espèce de dualité, de bataille dans ma famille. Mon père voulait aller dans sa famille, en moyenne montagne, là-bas, les chauds, et ma mère voulait descendre à la ville. Et bon, il y avait une sorte de conflit, et je me suis introduit dans la faille, parce qu'ils mettaient pas mal de temps à décider, puis finalement, ils allaient toujours dans la famille de mon père, vers 3h de l'après-midi. Donc, Donc avant, je m'étais arrangé pour aller faire du foot. Et donc je faisais du foot dans le village, sans que mes parents le sachent d'ailleurs. Et c'est là que j'ai découvert tout le village, quoi, et toute la vie du village, et la vie aussi de mes copains. Et on partait pour des expéditions, c'était vraiment... l'équivalent du Real de Madrid contre l'Ajax Amsterdam, alors qu'on allait jouer contre le village voisin. Mais c'était vraiment, tout d'un coup, une vie sociale comme je n'avais jamais connue et comme je ne connaissais pas dans la semaine, quoi.
Et c'était une vie clandestine. Vos parents ne savaient pas.
Comment
est-ce qu'on
pas.
Peut, petit garçon, aller faire du foot dans son village sans que ses parents ne le sachent, André Dussault?
Bah, je savais qu'ils discutaient. Donc, je disais, bon, je vais faire du vélo. En fait, en l'occurrence, j'allais jouer au foot. et donc, c'est 6 mois après que les amis de mes parents ont dit, mais il joue pas mal, votre fils, au foot. Et ils savaient pas du tout que je jouais au foot. Je m'étais inscrit. Mais bon, voilà, tout le monde avait trouvé sa place et j'avais pu. Mais après, bon, après, ils ont évidemment étant au courant, ils ont accepté que, ou accepté. Ou en tout cas, ils ont bien vécu le fait que je fasse partie de l'équipe du village et que j'aille me balader aussi avec des copains. C'était pas mal aussi pour eux. Mais bon, voilà, on a dû s'arranger. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais chacun a trouvé sa place et son activité.
Vous pensez que la pratique du foot, dans les conditions dans lesquelles vous nous la racontez, André Dussolier, c'est pas rien quand même.
Oui.
Ça peut résonner avec le fait plus tard d'avoir voulu être acteur, c'est-à-dire être en équipe avec des camarades. Parce
oui.
que lorsque vous me dites ça, je pense à Patrice Chéreau qui a raconté, lui aussi a grandi à la campagne, que la première cérémonie théâtrale qu'il ait vue, c'est la messe. Et que après avoir un petit peu d'ailleurs hésité à devenir prêtre, il a eu envie de devenir metteur en scène et que cette idée de la cérémonie religieuse ne l'a jamais quitté. Mettre en scène est sans doute né de la contemplation de la messe. Vous, le jeu, est-il né chez vous, cette vocation est-elle née de ce sport d'équipe qu'est le football?
Alors il y a une sorte d'addition quoi, entre ce professeur de français qui me fait découvrir le théâtre, dont j'ignorais l'existence. Il y a eu en effet l'équipe, et alors je me souviens d'exemples très frappants, parce qu'on faisait des matchs comme ça quelquefois, alors ce n'était pas les matchs officiels, mais les matchs entre nous, où tout d'un coup il y en avait un qui était laissé sur la touche, quoi, parce qu'il fallait qu'on soit vraiment, 11 contre 11, et il y en avait un qui était là en supplément et qui attendait, et je trouvais ça tout à fait injuste, donc c'était toujours le laisser pour compte du village, même quelquefois. Et donc j'avais vraiment une envie et je me battais, je me souviens de ces moments-là, où pour que tout le monde soit intégré et participe au jeu, même si on n'était pas tout à fait dans les règles, et si on était 12 contre 12, peu importe. Et là, j'oubliais la messe, c'est marrant d'en parler, parce que je savais pas du tout, j'ignorais que Patrice Chéreau avait vécu ça, mais la messe aussi, c'était un moment de représentation et aussi de retrouvailles aussi dans le village, parce que ça comptait beaucoup, l'avant-messe, parce qu'on allait toujours à la boulangerie fouiner derrière pour aller manger des gâteaux avant d'aller à la messe, et puis aussi en sortant. Et puis la messe, le cérémonial, c'était vraiment une possibilité de... Vous voyez, d'être tous ensemble, d'avoir toujours, d'être dans une belle pensée ou une belle manière d'être commune, en fait. Donc, il y avait quelque chose de théâtral déjà là, dans la représentation. Et puis aussi, le travail d'équipe, vous avez raison. Le sport a été pour moi un ciment ou un fondateur du plaisir de travailler en équipe. Et que j'ai retrouvé plus tard après. Mais ça, travailler avec les autres, pour moi, ça a été vraiment nécessaire. C'est là où j'éprouve le plus grand plaisir. Peut-être, je sais pas, c'est parce que je suis fils unique et que j'ai été condamné souvent à être seul, tandis que tout d'un coup, travailler ensemble, ça génère des idées, une activité, la révélation de chacun, même dans le travail, qui fait que le travail lui-même est porté au plus haut.
Mais c'est quand même la grande chance de l'acteur, André Dussolier, c'est de pouvoir, alors que vous le dites, vous étiez fils unique, dans sa carrière, être père, être frère, être ami, être fils, être grand-père, être petit-fils, être chef, être employé. Enfin, vous avez la possibilité de vous constituer une fratrie au théâtre ou au cinéma. Vous avez cherché des frères et sœurs, justement, de ce point de vue-là.
Oui, j'ai essayé sans doute. C'est vrai que j'ai essayé sans doute d'agrandir... Enfin, je dirais plus que c'était donner un peu plus d'intensité à ma vie, quoi. Parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir été mis dans une situation de spectateur de la vie et non pas d'être acteur, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois spectateur un peu de la volonté de mon père, des désirs de mon père, oui, c'est ça, surtout. De la figure paternelle qui m'entraînait vers les études, mais qui m'entraînait pas vers d'autres choses, quoi, vers la découverte du monde. Je n'avais pas la possibilité de les découvrir dans ses pas ou à travers ses yeux ou à travers ce qu'il aurait pu connaître.
Vous avez cherché des fraternités au théâtre.
Oui, bien sûr.
Des frères, des sœurs.
Oui, bien sûr.
Et au cinéma, évidemment.
Oui, 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 absolument. Des frères, des sœurs, une famille qui m'a manqué, que je n'avais pas. Alors, j'avais bien sûr des cousins, mais que je voyais de temps en temps. Mais dans la réalité, je ne l'avais pas. J'avais pas cette, ou le sport auquel j'ai fait allusion. Et tout d'un coup, le théâtre a été une possibilité de vivre ensemble, de travailler ensemble. Et surtout, c'est surtout ça, c'est d'avoir une vie plus intense, quoi. Alors, évidemment, vous avez fait allusion. Alors, évidemment, tous les rôles qu'on peut jouer au théâtre ou au cinéma, c'est tout d'un coup des vies multiples, même si elles ont l'air un petit peu superficielles. Mais quand même, on creuse un peu, on aborde un peu les sujets ou les thèmes ou les personnages en s'y intéressant et en connaissant un petit peu l'univers dans lequel ils évoluent. Et donc, en effet, là, tout d'un coup, j'avais l'impression d'être, en chaque fois qu'il y a un rôle à jouer, j'ai l'impression de tout d'un coup de m'ouvrir sur un monde ou sur une manière d'être que je ne me suis pas autorisé à révéler dans ma vie réelle. Tout d'un coup, la vie fictive a une plus grande richesse. Alors évidemment, c'est commode, c'est plus facile. Quand Bergman vous fait dire des choses que vous n'osez pas dire forcément quand vous vivez en couple, alors évidemment, c'est beaucoup plus... C'est exaltant. Et en plus, quand on le dit à toute une salle qui est de 700 personnes et qui est là vraiment réjouie ou bien effrayée ou bien à l'écoute, dans une écoute intense de tout ce qui peut se dire sur la vie de couple, et quand vous êtes le témoin ou le porte-parole de ces phrases de magnifiques de Bergman ou de ses pensées ou de ses situations, alors c'est un pouvoir qu'on s'octroie ou qu'on acquiert et qui est vraiment prodigieux, quoi, et une vie pour soi-même qui est absolument bien plus grande, bien plus intense que la vie réelle qui était la mienne, parce que elle a toujours été un petit peu ficelée, quoi, un peu cadrée, cette vie réelle. Donc du coup je m'en suis échappé grâce au théâtre.
Cette rencontre avec le théâtre à l'âge de 10 ans, quand vous voyez, je crois, Poil de Carotte, hein, grâce à ce professeur ou cette professeure de français, est-ce que vous diriez de ce moment-là que ça a été une expérience quasiment spirituelle ? Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous pourriez le dire ? Pas au point de Claudel étant visité par Dieu derrière son pilier de Notre-Dame, qui a cette révélation, mais malgré tout, on sent que c'est important, que c'est un moment charnière. Hein.
Oui. Oui, oui, c'est pour moi ça comment dire, c'était une ouverture considérable et une possibilité d'exister comme jamais je l'aurais imaginé. Parce qu'elle, non seulement elle nous a fait découvrir le théâtre, mais elle montait des pièces. Donc tout d'un coup, on devenait aussi acteur. Et donc on pouvait, ça a commencé par Poil de Carotte, qui ressemblait pas mal, la pièce, à ce que je pouvais voir ou regarder près de chez moi, ou chez moi même d'ailleurs, dans ma famille. Et en plus, en montant des pièces, disant des mots qui n'étaient pas les nôtres, nous permettant de vivre des émotions qu'il était de bon ton de garder pour soi quand on était en famille, eh bien là, tout d'un coup, il y avait une ouverture sur des mondes différents qui était prodigieuse, quoi. Donc du coup, ça a été en effet un voyage, une ouverture spirituelle, oui, mais pas seulement, c'était vraiment charnel, c'était vraiment concret, quoi. C'était des émotions, je les vivais pour le coup. Alors c'est marrant parce que depuis ce moment-là, j'ai toujours été dans la dualité de me dire, ah là là, ça me faisait du bien de pouvoir vivre ça comme ça, grâce au théâtre, grâce au jeu. Mais en même temps, j'avais un petit regret. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé peut-être le vivre pour mon propre compte. Il y a toujours eu cette espèce de dualité que j'ai essayé de réunir, que je réunis peut-être un peu maintenant, mais timidement, quoi. C'est-à-dire en faisant moi-même les spectacles. C'est-à-dire, bon, là, au moins, j'ai l'impression, de A jusqu'à Z, surtout au théâtre, de pouvoir prendre les choses à bras-le-corps du début jusqu'à la fin. Au moins, là, j'ai l'impression d'exister pour mon propre compte et de faire les choses comme je les sens, comme je les pense. Mais ça m'aurait bien plu, à l'époque, quand j'avais 17, 18 ans, de partir avec mon sac à dos et d'exister pour moi-même, ou même, bien avant encore, de pouvoir avoir des discussions, je sais pas, politiques, ce qui était totalement interdit dans ce monde où il fallait pas parler politique après la guerre, c'était vraiment trop explosif. Et donc, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas d'existence, il y avait pas de, on ne sollicitait pas de l'autre la possibilité d'être lui-même, quoi. Donc, c'est ça qui m'a vraiment toujours manqué. Et moi, alors, cette horrible contradiction, c'est je peux être moi-même à condition de jouer, à condition d'être un autre. C'est à la fois salutaire et bienfaisant, mais en même temps, il y a toujours une part de me dire, ah, mais si j'avais eu ma vraie vie, alors j'étais toujours fasciné par des gens comme ça, qui, dans la réalité, sont allés au bout d'eux-mêmes. Je pense à Semmelweis, par exemple, qui est un médecin autrichien qui vraiment avait découvert le microbe bien avant Pasteur et qui est allé jusqu'à s'entailler le doigt pour prouver qu'il avait raison, alors qu'il avait beaucoup d'opposition autour de lui. Je pense à Bernard Palissy, qui a vraiment brûlé tous les meubles chez lui pour arriver à faire monter le four à 1000 degrés pour pouvoir créer la céramique qui correspondait à celle qu'il avait retrouvée dans un jardin, une céramique chinoise. Ou je pense à l'ND, par exemple, qui va jusqu'au bout de sa conviction politique. Voilà, j'aime bien ces gens-là parce que c'est toujours été un fantasme, un rêve de pouvoir, pour mon propre compte, aller au bout de moi-même. Alors, je vais au bout de moi-même en empruntant les mots des autres.
Oui, mais est-ce que finalement, cette coïncidence que vous cherchez entre vous et vous, André Dussolier, n'est pas l'objet même qui vous permet la quête, qui vous permet de courir, qui vous permet d'avancer et de faire un spectacle et puis de jouer un film? S'il n'y avait pas ce moteur-là ou ce désir-là, cette frustration finalement, dans ce que vous dites, j'entends aussi une part de frustration, est-ce que vous seriez toujours dans le mouvement?
Non, c'est sûrement que de toute façon, si j'étais dans une réalité, la réalité à laquelle je fais allusion, il y aurait eu des obstacles, il y aurait eu des frustrations aussi, et il y aurait eu une impossibilité d'être... Mais je fais référence à ces personnages comme ça, qui vont au bout d'eux-mêmes et qui l'ont payé de leur vie. Palissy, il est mort à la Bastille, Semmelweis, il est mort, ou bien je pourrais... Ils sont allés au bout d'eux-mêmes, donc il y a souvent la mort, d'ailleurs, au bout de la passion, de leur passion. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles, et que ça aurait été difficile, et que ça aurait été douloureux aussi. Et là, c'est vrai que pour de jouer des vies pour du beurre, un peu, enfin, comme ça, sans danger, eh ben, c'est à la fois une possibilité de vivre intensément et sans mettre en danger sa propre vie.
Quelle place a occupé Jean-Paul Sartre dans, dans votre éveil intellectuel, dans votre façon aussi de mettre vos désirs en accord avec la pratique, André Dussolier?
Eh bien, j'ai bien fait de rater mon bac. Enfin, j'ai pas fait exprès, mais enfin, ça m'a permis de redoubler philo et de rencontrer un professeur de philosophie extraordinaire. Il s'appelait François Chirpaz. Et donc, il était, lui, on avait l'impression d'entrer au cours comme si on allait au café, quoi. On discutait avec lui. Il avait pas de notes. Il était brillant. Et en effet, j'ai découvert Sartre grâce à lui. Et moi, j'étais tellement, je venais de la montagne, d'une certaine façon, quoi, avec mon père, et puis aussi de la ville. Mais il y avait tellement de déterminisme que j'ai l'impression que nos vies, on pouvait pas, et j'ai toujours cette impression-là, qu'on peut pas vraiment forcément se débarrasser des boulets qu'on traîne ou bien des liens qu'on a avec son enfance ou des références qu'on acquiert comme ça dans les premières années de sa vie. Et Sartre, en disant l'existentialisme est un humanisme, tout d'un coup, c'était la possibilité de dire non, on n'est pas déterminé à l'avance, il n'y a pas un déterminisme sociologique, etc. Il existe sans doute, mais on peut s'en libérer, on peut faire ce qu'on a envie de faire, dire ce qu'on a envie de dire, penser ce qu'on a envie de penser et aller au bout de soi-même. C'était une révélation, c'est pas grand-chose, mais ça a été... très très important, et je pense que ça a alimenté ou ça m'a aidé dans certaines ruptures, quoi. Je pense avec mon père à certains moments, et même pour aller jusqu'au bout de mes envies de faire du théâtre, d'aller à Paris, parce que c'était pas une mince affaire, quoi. Il fallait quitter sa province et aller jusqu'à Paris, puisque tout est centralisé et que les écoles n'étaient qu'à Paris. Il n'y avait pas de comédiens professionnels à l'époque en province, donc il fallait franchir un palier. Mais quand même, j'étais, pour faire la part entre le déterminisme et la liberté d'entreprendre, il y avait le déterminisme et la liberté d'entreprendre. J'en usais quand j'étais vraiment au pied du mur. Quand on me disait, bon, ben voilà, vous avez un poste d'assistant de philologie à la fac d'Oran, si vous voulez, en Algérie. Je disais, non, je suis incapable d'enseigner. Et là, je suis monté à Paris pour aller faire du théâtre. J'attendais vraiment le dernier moment pour faire enfin ce que j'avais envie de faire, quoi. Il y avait mais je le faisais.
Est-ce que ce n'était pas une façon, André Dussolier, aussi de temporiser un peu avec le désir paternel? C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez fait des études, maîtrise de lettres, diplôme de linguistique, et de la même manière que vous alliez faire du foot de manière clandestine ou que vous preniez votre mobylette pour fuguer jusqu'à Annecy pour rejoindre votre amoureuse. Ouais. À un moment donné, vous avez pris un chemin de traverse et effectivement, vous êtes partie à Paris. Et là, vous êtes arrivée au conservatoire. Ce sera l'objet de notre émission demain ensemble. Mais il y avait une façon de conjuguer avec le désir des parents.
Oui, mais on peut avoir des désirs, mais le désir personnel, il faut vraiment qu'il soit, comment dire, qu'on ait la force de pouvoir l'assouvir et de le mener jusqu'au bout. Et j'avais caressé l'idée de faire du théâtre quand j'avais 18 ans, mais on me le déconseillait pas seulement à l'intérieur de la famille, mais tout autour, quoi, chez les amis. Ils me disaient, mais attends, c'est fais-en pour ton plaisir, mais voilà, c'est tout, limite-toi à ça.
Ça ne te faisait pas partie des plans de carrière, des plans de vie ?
Non. Enfin, je me disais à ce moment-là, si jamais j'y vais, si je vais à l'aventure, au moindre obstacle, je serais pas assez costaud, fort, et j'aurais l'ombre de ces tutélaires, de ces gens qui disaient, mais non, va au bout de tes études, c'est plus sûr, etc. Donc, je suis allé au bout, peut-être, j'ai attendu d'être au pied du mur, j'ai fait des études, j'ai obtenu des diplômes, pour me payer un billet de train, quoi, pour aller faire enfin ce que j'avais envie de faire, quoi. Et donc il y avait le désir, on peut vraiment le vivre pleinement que lorsque on se sent assez armé pour ne pas capoter au premier obstacle venu.
À 22 ans, vous arrivez à Paris, André du Solier, vous n'allez pas tout de suite au conservatoire, vous suivez les cours de Jean Périmoni avant de rentrer au conservatoire. Et est-ce que vous êtes d'accord avec un auteur que vous aimiez beaucoup à l'époque, qui était Albert Camus, pour dire que quand on est dans les années 70, un provincial, débarquer à Paris dans un milieu de gens rompus à la culture, rompus à la vie parisienne, c'est un choc qui demande quelques ajustements.
Oui. Oui, et le hasard m'a bien aidé parce que j'ai rencontré tout à fait par hasard un groupe d'amis qui sont restés des amis, enfin de jeunes qui avaient mon âge et qui étaient soit médecins, soit avocats, et qui, à ce moment-là, j'avais l'impression de retrouver ma famille d'Annecy, de Grenoble, enfin de copains que j'avais eu au cours de mes études. Parce qu'en effet, tomber dans ce milieu du théâtre qui était celui, alors vraiment, des citadins qui étaient rompus à toutes les cultures et à tous les cours et à toute la liberté dont j'aurais pu rêver, ça c'était un vrai choc et il y avait vraiment un décalage, quoi. Donc du coup, j'ai trouvé encore un équilibre là, en rencontrant des amis qui étaient dans d'autres milieux, mais qui correspondaient vraiment à celui qui était le mien dans mon enfance, et puis en découvrant le théâtre petit à petit, grâce à Périmoni, qui a été très honnête, très sérieux, qui ne disait jamais, qui ne vantait jamais ce qu'on venait de faire, il était jamais dans les superlatifs, il était toujours vrai dans ses réactions, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai eu l'impression de pouvoir progresser petit à petit parce que je m'y tenais à fond. J'avais 23 ans, j'étais obligé d'aller vite. Les gens qui commencent à faire du théâtre à Paris commencent très tôt, très jeunes, à 17, 18 ans. Donc là, je me sentais que j'avais un petit peu de retard et j'ai essayé de le combler et en travaillant beaucoup. Et du coup, là, j'ai trouvé. On trouve toujours son équilibre, quoi. Je pense à ces cours d'eau qui coulent là au milieu de la montagne et qui la pente, c'est une phrase de Gide que j'aime beaucoup, il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Mais là, en l'occurrence, dans la montagne, l'eau, elle va où elle doit aller. Même si elle rencontre des obstacles, elle trouve toujours son chemin, quoi. Donc c'est un peu ce que je me dis concernant la vie d'une façon générale.
Merci André du Solier, on se retrouve demain.
Volontiers.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Joël Gaillot avec André du Solier. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Thibaut Nassine-Ben. Cette émission se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.